En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Mon intervention va reprendre quelque chose qui est finalement presque un grand classique de la question du rapport entre la guerre et la technique, c'est que dans quelle mesure, effectivement, la technique, voire la technologie, c'est-à-dire le discours sur la technique, va avoir un effet sur la manière alors de conduire la guerre au sens large, hein, c'est-à-dire au moins dans des confrontations politiques dans lesquelles il y a une potentialité d'usage de la force. Et donc, effectivement, révolutionnaire ou évolutionnaire, hein, c'est ce dont je vais parler. Et effectivement, je vais commencer par dire que effectivement, cyberespace, c'est un terme qui est extrêmement employé, tellement que le préfixe cyber, d'ailleurs, est accolé à tout. Et là, il y a peu de temps, le contre-amiral Coustillère, hein, qui est officier général cyberdéfense à l'EMA, expliquait qu'il en avait plus que ras-le-bol et qu'il souhaitait désormais qu'on parle de numérique. Donc effectivement, ça peut se défendre, mais j'essaierai donc d'utiliser les deux termes indifféremment, sachant que cyberdéfense a quand même un sens, ou plutôt plusieurs sens qui sont propres au contexte français sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Alors effectivement, on se rend compte que le cyberespace ou l'espace numérique est devenu un véritable enjeu de sécurité nationale d'abord. Hein, on a vu qu'il y a toute une série de textes officiels sur ce domaine qui sont parus dans les 10 dernières années, de problèmes, on va dire, de sécurité informatique. Qui était presque individuel, à la limite, on est passé à des problèmes de sécurité nationale. Et puis, pourquoi pas, ça pourrait devenir un problème de sécurité internationale, et ce sera un point sur lequel j'insisterai. C'est-à-dire, finalement, un des aspects révolutionnaires qu'on imagine toujours derrière une technique, à travers, par exemple, la notion d'équilibre de l'offensive et de la défensive, c'est est-ce que la technique a la possibilité d'amener à une rupture en faveur de l'offensive, et donc à une plus grande instabilité internationale, là où, inversement, un moindre changement conduirait à un renforcement de la défensive et donc plutôt à de la stabilité. Alors, il y a des modèles qui ont été définis sur ce sujet, et sachant qu'il y a aussi des différentes écoles qui se disputent. Alors je dirais sur cette première sous-partie que l'enjeu que représente le cyberespace pour les États, je vais parler surtout des États aujourd'hui, collectivement ou seul, si je puis dire, c'est un enjeu qui a peu à voir avec ce qui se passe réellement dans le cyberespace. Je veux dire par là que c'est devenu un enjeu de sécurité nationale, surtout parce qu'il a fallu s'approprier cet objet cyberespace, que encore aujourd'hui, il y a des différentes définitions et représentations, et donc définitions officielles de ce qu'est le cyberespace, hein, ce qui va conditionner bien sûr la stratégie ou la politique qu'on va mettre derrière. Parce que également, c'est un enjeu qui va aussi avoir un impact sur les organisations qui sont chargées, qui sont en quelque sorte à qui on va confier la responsabilité de défendre ou d'exploiter cet espace. Et puis parce que ça peut avoir d'autres types d'enjeux politiques, hein, sur lesquels je reviendrai pas. Et donc il y a un écart entre le fait d'avoir placé ces enjeux comme étant des enjeux de sécurité nationale, qui n'est pas illogique et qui n'est pas illégitime du tout, et la réalité des enjeux qui s'y passent. Hein. Et je vais le montrer à travers, donc c'est mon deuxième point sur ce transparent, quelles sont les grandes idées qu'on voit dans la littérature à la fois officielle, à la fois professionnelle, à la fois universitaire, notamment dans le monde anglo-saxon, quels sont les grands thèmes qu'on voit sur la numérisation. C'est en train de changer d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, il y a au contraire un certain nombre de chercheurs, je vais citer quelques noms tout de suite après, qui au contraire cherchent à revenir sur ce qu'ils appellent le cyber hype, c'est-à-dire un petit peu l'exagération peut-être qui a été portée sur le cyber. Je pense notamment à quelqu'un comme Thomas Reed au King's College à Londres, comme John Lindsay, Rick Gartzke ou d'autres Américains, Brian Maness, Brandon Valeriano, qui ont travaillé sur ces questions-là et qui ont montré qu'il fallait décortiquer, à travers les outils qu'on a déjà dans les sciences sociales et humaines, le cyberespace, pour se rendre compte que, effectivement, ce que je vais présenter maintenant mérite une analyse approfondie. Donc deux grandes idées ressortent. La première, c'est, j'ai un peu paraphrasé ce que disait Sir Baldwin en 1932 devant la Chambre des communes lorsqu'il parlait des bombardiers. Le bombardier passera toujours, parce qu'en effet, il y a une analogie dans le discours qu'on porte sur le cyberespace avec le discours qu'on portait sur la puissance aérienne dans l'entre-deux-guerres. Hein. Donc l'idée, c'est que finalement, dans le cyberespace, l'attaquant a l'avantage. Hein, on ne peut pas se défendre. On retrouve aussi une analogie avec ce que disait Bernard Brody dans The Absolute Weapon. Donc l'idée que, finalement, cette technologie où ce milieu particulier remet en question la capacité même de se défendre. Alors, c'est pas faux. pour reprendre une expression qui finalement dit beaucoup et en même temps pas beaucoup, dans la mesure où effectivement, comme ça a été très bien dit par exemple par Martin Libicki, qui est chercheur à la RAND Corporation, en fait une attaque dans le cyberespace ne perce pas un mur. Elle exploite les trous, les failles qui sont déjà dans le mur. Hein. Donc il existe effectivement, le cyberespace est composé de quantités de vulnérabilités qui sont d'ailleurs en couche, hein, j'en parlerai tout à l'heure. Mais peut-être qu'il ne faut pas exagérer les capacités de l'offensive. Et peut-être qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est ce que je verrai à la fin de mon exposé, les capacités réelles de la défense. Deuxième idée qu'on voit couramment dans la littérature, ou qu'on a vu couramment, c'est l'idée que, et c'est, qu'on le retrouve par exemple chez Joseph Nye, lorsqu'il écrit « Cyber Power » pour Harvard, je crois qu'on est en 2008-2009, hein, lorsqu'il dit, finalement, autrefois on avait les transitions de puissance, hein, grande idée chez les spécialistes des relations internationales, hein, une transition de puissance, transition au sommet de la hiérarchie de la puissance, mais là on aurait plutôt une diffusion de la puissance, c'est-à-dire qu'avec l'espace numérique, les ressources et les capacités à les exploiter se diffuseraient des États les plus puissants vers les États les moins puissants, et des États vers les autres types d'acteurs, hein, acteurs non étatiques globalement. Alors là aussi, c'est pas faux. Effectivement, on l'a vu tout à l'heure, hein, je suis tout à fait d'accord, il y a une forme de démocratisation grâce au cyberespace d'un certain nombre d'outils qui vont pouvoir être utilisés, notamment en termes de nuisance, hein, vis-à-vis des plus puissants. Et de la même manière, d'ailleurs, il y a effectivement de vrais dangers, ou en tout cas de vraies menaces qui naissent, hein, donc à travers les vulnérabilités réelles, et aussi derrière la menace, c'est-à-dire l'intention de les exploiter, bien entendu. En revanche, là où il faudra peut-être nuancer, c'est que la diffusion de la puissance, en fait, ne donne pas réellement lieu à quelque chose de réellement, enfin, de tout à fait neuf. C'est-à-dire qu'on voit déjà se développer dans d'autres domaines les ressources et les capacités vers les acteurs non étatiques, mais je dirais qu'il faudrait différencier entre les acteurs non étatiques qu'on va appeler réguliers, classiques, organisations régulières, organisations dites terroristes, et puis ce qui est de plus en plus courant, ce qu'on appelle les state-sponsored, non-state group, hein, donc dans la littérature américaine, on en parle souvent, c'est-à-dire le fait que des États ont affaire comme soutien ou comme adjoint à un certain nombre d'organisations qui ne sont pas étatiques, qui peuvent être animées par des buts patriotiques, par des buts de profit, et qui mènent souvent un certain nombre d'attaques. Hein. Le problème étant que, en réalité, la question des state-sponsored actors, c'est une question qui nécessite de s'interroger sur les différents degrés de liens, de relations qui vont exister entre ces États et ces acteurs. C'est-à-dire qu'entre l'État qui contrôle intégralement ces organisations, qui leur donne des ordres, qui les finance, qui les place sous sa chaîne de commandement, et puis l'État qui tolère de loin parce que ça coïncide avec les intérêts, il y a environ une... Ça a été vu par exemple par le chercheur Jason Hilley, lui il a élaboré une typologie avec 10 degrés différents. Alors, vous voyez, donc il faudrait différencier ces acteurs et les acteurs non étatiques, entre guillemets, classiques, qui eux sont, on va dire, les « rogue actors ». Effectivement, le problème, c'est qu'ils sont apparemment soumis à aucune règle. On va voir que ça peut être problématique. Mais peut-être que, et là aussi, ce sera la deuxième nuance qu'il faut apporter à l'idée de la diffusion de la puissance, peut-être qu'aussi le fait de disposer de ressources ne suffit pas. Hein, c'est Raymond Aron qui disait que la puissance, c'est la capacité à utiliser des ressources dans un contexte donné. Et donc, c'est très bien d'avoir des ressources. Encore faut-il être capable de les mobiliser et de les exploiter. Or, on va voir, surtout sur ce dernier aspect, l'aspect instrumental des ressources, on va voir que le cyberespace est un instrument qui est extrêmement délicat à maîtriser, à tel point qu'on peut se poser la question de l'instrumentalité, si je puis dire, du cyberespace dans le cadre de la guerre. Est-ce que c'est vraiment un instrument, véritablement ? Voilà pour le premier point. Deuxième point, alors je vais, pardon de vous infliger ça, j'ai intitulé ça « Cybersécurité, cyberdéfense 1.101, hein, donc le cours de base, ou la cybersécurité pour les nuls. Bon, je vais essayer de pas, je vous rassure, hein, c'est pas du tout méprisant de ma part, mais je pense qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui doivent être rappelées. Donc peut-être d'abord dire que il y a un certain nombre de choses sur lesquelles les chercheurs et du coup également les politiques sont tombés d'accord. La première, c'est la délimitation de l'espace numérique. Dans la plupart des cas, on définit l'espace numérique en trois couches. Alors, c'est devenu aujourd'hui très classique. Alors ça peut être discutable, mais globalement, c'est à la fois une représentation et une conception qui se tient. C'est-à-dire vous avez une couche physique. Le cyberespace, c'est l'interconnexion physique par des moyens physiques d'un certain nombre d'ordinateurs. Hein. Donc vous avez des serveurs, vous avez des câbles, hein, vous avez des satellites, évidemment. Vous avez une deuxième couche qu'on appelle logique, logiciel, enfin bref, c'est celle du code, c'est-à-dire que ces ordinateurs communiquent, hein, à travers des protocoles qui permettent, c'est le principe d'Internet, hein, c'est de créer des protocoles qui permettent à n'importe quelle machine de communiquer entre elles. Donc il y a des échanges de données. Et puis, il y aurait une troisième couche qu'on appelle sociale, cognitive, là aussi, qui, si vous voulez, concerne les utilisateurs, qui concerne également les idées, les informations elles-mêmes, au-delà simplement des données, hein, qui sont échangées entre justement ces machines. Hein. Si, comme on dit souvent, hein, si Internet est neutre, hein, c'est-à-dire c'est juste un moyen de transport, en revanche, au niveau des différents utilisateurs, eh bien, évidemment, c'est eux qui interprètent, qui donnent du sens aux informations qui sont échangées, et donc aux moyens par lesquels elles sont échangées, c'est-à-dire les données. Hein. Je rappelle que numérique, c'est parce que les données sont échangées par paquet. Elles sont envoyées par paquet dans tous les sens, et à la fin, elles sont recomposées pour arriver au destinataire final. Deuxième chose sur laquelle tout le monde est à peu près, enfin, il y a un consensus, on va dire, aussi bien dans la recherche que dans le monde des praticiens ou dans le monde politique, c'est sur le fait que le cyberespace n'est pas caractérisé par la rareté des ressources. Sa principale ressource, ce sont les informations, hein, quelle que soit la forme, que ce soit une information brute sous la forme de données, ou que ce soit l'information qui a du sens, hein, c'est-à-dire les idées qu'on échange, notamment avec le web social. Donc, il y a une différente économie des flux d'informations par rapport à l'économie des ressources dans les autres, on va dire, les autres espaces, les autres milieux, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Étant donné que ces ressources ne sont pas rares, l'enjeu, ce n'est pas la capacité à répartir ou pas les informations, l'enjeu, c'est davantage comment gérer les flux. Hein, la capacité éventuellement à freiner les flux d'informations, au contraire à les accélérer. Et on voit qu'il y a des vraies représentations et des vrais projets politiques divergents au niveau international aujourd'hui, entre par exemple, on va dire les États-Unis et la France, un certain nombre de pays occidentaux d'un côté, qui considèrent que, effectivement, le cyberespace et notamment Internet, c'est un espace sur lequel l'information devrait circuler librement. Il y a d'ailleurs une analogie à faire, pourquoi pas, avec l'espace maritime. Hein, on a aussi d'ailleurs cette vision que le cyberespace serait un global common, du coup, sur lequel, bien entendu, les États-Unis souhaitent avoir, entre guillemets, la responsabilité, hein, voilà, qui devrait être géré de façon multi-acteurs, c'est-à-dire non seulement par les États, mais aussi par tous ceux qui sont parties prenantes. Et puis, vous avez d'autres projets politiques. Alors, il y en a trois, mais je vais en citer que deux. Hein, donc, celui qui s'oppose à celui que je viens de définir, c'est celui, par exemple, de la Russie, de la Chine, de l'Iran, de l'Arabie saoudite, qui est plutôt un projet dans lequel l'État devrait affirmer sa souveraineté sur la gestion, justement, de ces flux d'informations. Voilà. Alors, ça pose des problèmes que j'ai pas le temps de développer, mais qui sont passionnants par rapport à la notion de souveraineté, qu'il faudrait découper, hein, pour s'apercevoir que l'émergence du numérique ne modifie pas substantiellement la question de la souveraineté des États. En revanche, elle modifie la capacité des États à gérer les flux transnationaux. Ce qui, en soi, ne fait que renforcer une évolution qui existe déjà avec la globalisation dans le domaine, par exemple, des échanges commerciaux, avec la dérégulation qui l'a accompagné. Voilà. Troisième chose sur laquelle, donc, et j'ai parlé de vulnérabilité tout à l'heure, mais je vais détailler, troisième chose sur laquelle les États sont tombés, enfin, pardon, il y a un consensus, c'est l'idée, donc, que le cyberespace, comme j'ai dit tout à l'heure, est fait de vulnérabilité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, très souvent, on ne pense pas aux vulnérabilités du niveau physique, de la première couche, parce qu'en général, ce sont des infrastructures qui sont protégées, ou sur lesquelles il n'y a pas intérêt à agir, puisqu'en effet, ces infrastructures desservent tout le monde. Et donc, il y a autant, si on veut détruire une infrastructure, on a autant d'effets sur l'adversaire que sur soi-même. Donc, il est difficile de discriminer. Très souvent, l'accent est mis sur les vulnérabilités au niveau logiciel, c'est-à-dire les vulnérabilités dans le code, qui sont très nombreuses. Et notamment, on parle de vulnérabilités zero day, donc ces vulnérabilités qui sont dans la conception, hein, d'une application, d'un logiciel, peu importe, qui sont dans le code et que le concepteur n'a pas vu. Qu'en revanche, quelqu'un d'autre a vu, et sa grande question, c'est est-ce que je vais la revendre? Est-ce que je vais, au contraire, la garder pour moi, l'exploiter, etc. Et ça pose donc de vraies questions politiques, avec, par exemple, l'accusation qui a été portée contre la NSA d'avoir systématiquement découvert des zero day, voire acheté, notamment une société française, ex-française, qui s'appelait Vupen, acheté ces vulnérabilités pour, non pas les donner ensuite au concepteur, mais pour les garder de son côté et être capable donc de les exploiter. Bon, souvent on pense à ça. Ce qu'on oublie, c'est qu'en réalité, la principale vulnérabilité des États, des organisations, des systèmes informatiques, y compris militaires, c'est la vulnérabilité humaine. Hein, c'est-à-dire c'est l'utilisateur qui est véritablement un problème, et d'où le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, les questions de cybersécurité, c'est-à-dire de sécurité des systèmes d'information, ou celles de cyberdéfense, c'est-à-dire celles qui portent sur la capacité à maintenir un système opérationnel, hein, et éventuellement être capable de se défendre, à réagir, voire d'attaquer, Aujourd'hui, de plus en plus, on parle d'ingénierie sociale, c'est-à-dire du risque qu'il y a à ne pas suffisamment sensibiliser les utilisateurs. Alors, pour donner un exemple et pour terminer sur ce point, c'était au printemps, l'entreprise américaine Verizon a par exemple mis un rapport dans lequel elle estimait que le temps moyen dans une entreprise, entre le moment où ce qu'on appelle une attaque de phishing, c'est-à-dire une gigantesque, on jette une NAS et on s'attend à ce que les gens réagissent en cliquant au mauvais endroit, téléchargeant donc un malware, un logiciel malveillant qui ensuite va faire ce qu'il veut, espionner, renvoyer des données, etc. Donc Verizon a estimé que le temps moyen dans une entreprise entre le moment où une attaque de phishing était lancée contre les employés et le moment où quelqu'un dans la boîte allait cliquer était de 2 minutes. Donc effectivement, on comprend que dans ce domaine, les vulnérabilités fassent peur et que donc naissent autour du cyberespace un discours qui n'était pas celui qu'on avait dans les années 80-90, qui était un discours au contraire très utopiste, très libertaire, très anarchiste, hein. Qui est aujourd'hui un discours plutôt portant sur l'importance de la menace, le tout étant de, c'est ce que je vais dire maintenant, ne pas exagérer la menace, non pas ne pas la sous-estimer non plus, bien entendu, mais ne pas exagérer parce que certes, exagérer une menace, ça permet de rapatrier des ressources pour la contrer. Mais d'un autre côté, ça détourne les ressources qui pourraient être utilisées ailleurs. Et même, je vais même aller encore plus loin, ça peut avoir des effets de prophétie autoréalisatrice. Et on va le voir notamment entre États, c'est le grand risque. Le grand risque entre États n'est pas aujourd'hui une attaque catastrophique majeure dans le cyberespace, c'est-à-dire par exemple la Chine qui attaquerait le système, je sais pas, hospitalier américain pour mettre tout en panne. Non pas que ça soit impossible, mais c'est stratégiquement et politiquement impossible. C'est pas techniquement, c'est faisable. C'est-à-dire que c'est, voilà. Mais le risque n'est pas là. Le risque, c'est l'escalade. J'en parlerai tout à l'heure. Alors, quels sont les critères qui vont pouvoir contextualiser un peu cybersécurité et cyberdéfense? J'en vois 3, qui sont là aussi tirés de la littérature, et qu'on peut raffiner un petit peu. Le premier, c'est, je pense que quand on se réfléchit au cyberespace, et notamment à ce qu'on appelle les cyberattaques, il faut réfléchir en termes d'effets. Quels sont les effets que produisent les cyberattaques? Et en fait, on peut faire une matrice, un tableau à 2 entrées, si vous voulez. D'un côté, selon le moment où les effets vont apparaître, donc des effets qui peuvent être immédiats ou au contraire qui peuvent être différés. Et puis ensuite, la question de la direction ou l'indirection, c'est-à-dire les effets peuvent être directs ou ils peuvent être indirects. Alors, ayant dit cela, et malheureusement je ne peux pas rentrer dans les détails, ce que je veux juste souligner, c'est qu'en réalité, il est très difficile pour un attaquant de calibrer, de cibler un de ces 4 effets. C'est-à-dire d'être sûr que, par exemple, s'il programme quelque chose de direct et immédiat, ça va effectivement être direct et immédiat. Il est extrêmement difficile, si vous voulez, encore plus peut-être que dans la stratégie classique, de combler ce fossé qui existe entre ce que je veux faire, ce que je vais faire, et les effets que ça va produire. Il me semble que c'est un des grands dilemmes de toute la stratégie, qu'on retrouve partout. Voilà. Donc, première chose, il faut s'interroger sur les effets des cyberattaques, et on voit que, du coup, déjà, c'est un instrument complexe. Déjà, maîtriser la force en général, c'est-à-dire être sûr qu'elle va produire les effets qu'on veut, que ces effets vont ensuite aboutir à l'effet politique voulu, c'est déjà compliqué. On peut déjà serrer les fesses quand on le fait. Mais là, c'est effectivement encore plus difficile. Deuxième élément qui me paraît important, c'est les ressources des acteurs. Et là, je reviens à la question de la symétrie, dissymétrie ou pas. Ça peut jouer un rôle, parce qu'effectivement, une cyberattaque, si vous voulez, en quelque sorte, et ça va se comprendre par exemple à travers la notion de cyberarme. C'est Thomas Reed qui a montré ça. Il a dit, bon, d'abord, il rappelle la chose classique, c'est qu'une arme est une arme en fonction de la destination l'utilisation à laquelle on le destine. Un marteau peut être une arme. C'est pas génétiquement une arme, mais ça peut l'être. Un missile peut être une arme, mais comme dans le cas du nucléaire, elle peut être voulue, en tout cas pensée, dans l'idéal, en termes de non-emploi, même si, en réalité, il y a quand même au moins l'effet de menace psychologique. Donc c'est véritablement une arme. Donc, souligner là-dessus qu'il dit qu'en quelque sorte, toutes les attaques se situent dans un créneau entre ce qu'il appelle d'un côté le pistolet, alors on pourrait dire le pistolet à peinture ou le laser game, ou pour ceux qui connaissent le paintball, voilà. Et de l'autre côté, les missiles à guidage laser ou GPS. Voilà. C'est-à-dire, en gros, d'un côté, des armes qui sont accessibles facilement, mais dont l'effet réel est nul. Alors, psychologique, il peut être important. Rappelons que la force ne sert pas forcément à détruire, mais elle fait mal. C'est-à-dire, elle peut créer des anticipations de souffrance de la part de celui qui est ciblé par la force. Donc, psychologiquement, ça peut être utile, mais c'est très difficile à manier, comme tout ce qui est psychologique. Et puis de l'autre côté, donc la bombe à guidage laser, donc est extrêmement précise, mais évidemment qui n'est pas à destination de tout le monde. Donc les ressources des acteurs jouent un rôle essentiel, parce qu'effectivement, en fonction de l'attaque qu'on voudra mener, donc du degré de complexité du système qu'on va viser, de l'enjeu, et j'en arrive au dernier point, de l'enjeu que représente le système visé pour la potentielle victime. En fonction de tout ça, évidemment, les cyberattaques vont être complètement différentes. Les enjeux jouent un rôle essentiel, et ça a été très bien montré par Thomas Reed dans toute sa discussion sur ce qu'on appelle l'attribution, c'est-à-dire la capacité ou non à désigner, à pointer du doigt un agresseur, après qu'une attaque ait eu lieu. Qui est essentiel, puisque évidemment, la notion d'attribution renvoie à la possibilité ou non de la dissuasion. Voilà. Les enjeux des acteurs importent, puisqu'en effet, ce qui paraît aujourd'hui à peu près clair, et on le voit à travers l'affaire Sony par exemple, c'est que c'est un facteur essentiel. Pensons à l'affaire Sony. Vous avez une entreprise, Sony Entertainment, donc de divertissement, qui est attaquée, c'est-à-dire dont les données sont pillées et ensuite détruites. Ce qui est catastrophique pour plusieurs personnes, en partie pour l'entreprise, mais surtout pour son PDG et son PDG adjoint, dont les mails, parfois limite, ont été se retrouver au vu et su de tout le monde. Donc il y a des effets de réputation, effectivement. Pourquoi l'État fédéral intervient-il? Pourquoi c'est la première fois que les États-Unis, enfin que le gouvernement fédéral américain désignait un agresseur, après la question de savoir si c'est eux ou pas, c'est un autre problème, hein, et répondait à travers des sanctions. Et peut-être un blackout, mais ça imposé sur l'Internet. Voilà. C'est intéressant. Pourquoi? Bien, c'est lié à l'enjeu que ça représente pour le président Obama, cette affaire-là. Qui, pour l'instant, sur lequel pour l'instant, on ne peut avoir que des conjectures en l'absence de témoignages directs. Mais ça peut être, par exemple, le fait que l'opposition républicaine au Congrès n'arrête pas d'attaquer l'administration sur sa soi-disant complaisance vis-à-vis des cyberattaques, et notamment du cyberespionnage chinois. Donc faire quelque chose, c'est un moyen de donner des gages à cette opposition. Ça peut être parce qu'il y a un enjeu de free speech. Pensez que peu de temps après, il y a Charlie Hebdo, et donc il y a cette espèce d'enjeu de « Ah oui, on veut nous interdire de diffuser un film, etc. » Donc vous voyez, on ne va pas se laisser faire. Il y a l'enjeu presque de fierté nationale. Donc l'enjeu a conduit à une réponse qui n'était probablement pas celle à laquelle s'attendait l'agresseur, si tant est que c'était bien la Corée du Nord. Hein, c'est-à-dire que l'agresseur a attaqué un point qu'il estimait peu sensible, sur un système peu complexe, hein, ce type d'entreprise a des réseaux qui sont assez vulnérables, hein, et qui plus est, il y a certainement eu, comme tout acte de sabotage, un insider, c'est-à-dire peut-être que quelqu'un à l'intérieur, peut-être pas très content de ce qui se passait dans la boîte, a donné ses codes à quelqu'un d'autre, hein, ses codes d'accès, j'en sais rien, mais peut-être que l'agresseur s'attendait à un faible enjeu, faible complexité, et pourtant derrière, il y a eu une réponse. Alors ça m'amène à penser à ça. Voilà le paysage sécuritaire tel qu'on peut l'imaginer et tel que certains chercheurs aujourd'hui commencent à l'entrevoir. D'abord, il faut bien voir qu'il y a un lien inversement proportionnel entre le nombre d'attaques et leur sévérité. C'est-à-dire que les attaques les plus fréquentes sont aussi celles qui sont certes des nuisances, et notamment pour ceux qui en sont les victimes, hein, il ne s'agit pas de le négliger, mais sont aussi celles qui produisent le moins de dégâts en termes de sécurité nationale. Voilà, soyons clairs. Ou plus exactement, bien entendu, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va dépendre de l'enjeu. C'est-à-dire qu'effectivement, là, en l'occurrence, le président Obama a décrété que l'attaque contre Sony était un enjeu de sécurité nationale. Il aurait pu ne pas le faire. On aurait pu être dans un contexte complètement différent. Mais en tout cas, il y a ce lien inversement proportionnel. Donc les attaques les plus sévères, pensez à Stuxnet, puisque ça a produit des effets physiques, ça s'est produit qu'une fois. Et pour le moment, bien qu'on ait dit à l'époque, ça y est, le code est en circulation partout, etc., ben on n'a pas vu se reproduire ce type d'attaque. Pourquoi? C'est pas forcément qu'on a des gens qui sont incapables de le faire, c'est en termes techniques, mais peut-être que en termes organisationnels, c'est plus difficile, et peut-être qu'en termes de calcul stratégique, en termes de calcul, on va dire, coût-bénéfice, pour faire simple, ça leur est pas paru intéressant d'utiliser une attaque de type Stuxnet. Donc il y a ce premier lien. Deuxième chose, ça a été montré par Brandon Valeriano et Ryan Maness, qui ont étudié le nombre de cyberattaques qui ont lieu entre États rivaux. Il a pris exprès des rivaux antagonistes. Voilà, les États qui, dans le système international, sont connus pour se détester mutuellement et peut-être parfois souhaiter leur disparition mutuelle. Eh bien, en étudiant ça, il a montré deux choses. C'est que, premièrement, il y a effectivement une vraie régionalisation de la cybersécurité. C'est-à-dire, entre États, ces questions-là restent limitées, effectivement, à ces rivaux antagonistes qui sont souvent situés à l'échelle régionale. Et deuxième chose qu'ils ont montré, qui, moi, me paraît plus importante, c'est que, apparemment, les États font preuve de retenue. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des cyberattaques, il n'y en a pas beaucoup, quand il y en a, elles restent en dessous d'un certain seuil. Elle reste en dessous, en fait, elle reste en dessous d'un seuil qui pourrait déclencher chez l'autre une réponse disproportionnée. Ce qui montre bien que le vrai danger n'est pas l'attaque elle-même, mais la manière dont elle pourrait être perçue par la victime. Et on retrouve d'ailleurs ça à l'échelle internationale hein, aujourd'hui. On retrouve vraiment entre les grandes puissances, et on l'a vu avec l'accord signé récemment, hein, enfin, même si bien sûr il faut attendre de voir ce qui va en être, mais par le premier chinois et puis Obama, hein, on voit quand même qu'il y a une espèce de norme, enfin, il y a des choses normatives qui se mettent en place, une espèce de norme implicite et peut-être explicite maintenant de non-utilisation. Et je rappelle que la France avait été instrumentale, enfin avait joué un grand rôle, pardon, dans l'élaboration du texte qui à l'ONU, enfin du rapport qui à l'ONU a servi de base, donc justement à ce fameux accord entre Xi Jinping et Barack Obama. Enfin, je termine par le dernier point, et puis je terminerai par la question de la défense. Finalement, on se retrouverait face à ce que les spécialistes de la dissuasion ou de la stratégie nucléaire connaissent, un paradoxe stabilité-instabilité. Je rappelle, l'idée, c'est que la dissuasion nucléaire mutuelle fait qu'en quelque sorte, les puissances nucléaires ne s'attaquent pas entre elles, en revanche, elles vont rester en dessous d'un certain seuil dans leur confrontation, et ça va donner lieu à une instabilité, par exemple, à la périphérie. Donc il y a stabilité entre grandes puissances et instabilité en dessous. On retrouverait donc ici un espèce d'Internet à deux vitesses ou un cyberespace à deux vitesses, selon le degré de complexité d'un système et selon l'enjeu que ça représente pour la potentielle victime. En bas, on a un système qui va être très clairement à l'avantage de l'offensive. Les systèmes sont peu complexes à attaquer. Ce sont des enjeux mineurs ou alors sur lesquels la potentielle victime n'a pas vraiment de levier d'action. Donc on est effectivement, comme on dit en anglais, offense dominant. Donc il y a une vraie. Là, on est vraiment dans le paradigme qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le numérique induit véritablement un effet de déstabilisation, d'instabilité. Mais par contre, au-dessus du seuil. D'un certain seuil de complexité ou de niveau d'enjeu, on est plutôt, alors là dans autre chose dont je vais parler maintenant, mais qui conduit en tout cas plutôt à la retenue et plutôt à un avantage à la défense. Hein. À rappeler que, avant d'aborder ma dernière slide, qui est un schéma que je vais vous montrer tout de suite, à rappeler que dans les théories de l'équilibre et de l'offensive, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent, on va appeler l'école systémique, c'est-à-dire ceux qui disent que ce qui compte, c'est quel est le type d'armement ou de technologie disponible par les acteurs à un moment donné. Et ce type d'armement peut avantager dans l'absolu l'offensive ou dans l'absolu défensive. Ce qui est plutôt à l'origine du discours originel sur le numérique induit une vraie rupture dans ce domaine. Un avantage de l'attaquant, on ne peut pas se défendre, etc. De l'autre côté, il y a l'école, on va dire, dyadique, parce qu'elle considère que ce qui compte, ce n'est pas dans le système quel est le type de technologie qui va avantager l'offensive ou la défensive, mais c'est dans le rapport entre deux États ou deux acteurs quel est celui qui a un avantage en termes offensifs et en termes défensifs. Évidemment, c'est contingent, ça peut évoluer. Alors, j'en arrive à là pour montrer qu'on peut finalement élaborer des stratégies défensives dans le cyberespace, et ce que je dis là, c'est quelque chose en fait que certaines grandes entreprises ont déjà mis en place, et je pense notamment à Lockheed Martin qui, après une grande campagne de cyberespionnage certainement chinoise, a élaboré ce qu'on appelle la kill chain. Donc une vision en 7 étapes, c'est très militaire hein, comme langage évidemment, une vision en 7 étapes de l'attaque. Et avec l'idée, c'est que à chaque étape, on peut effectivement chercher à bloquer, hein, à intervenir sur l'attaque. Et je pars pour parler de ce schéma, je pars du fait que d'un point de vue analytique, il y a trois grandes stratégies défensives. Si on veut être en paix, finalement, face aux autres, il y a trois grandes stratégies. La première, c'est on peut chercher à désarmer l'autre. Alors, par des traités, par des normes, et aussi par la guerre préventive, évidemment. La deuxième grande stratégie, c'est on peut chercher, effectivement, à le décourager, c'est la dissuasion. Et puis, on peut chercher, évidemment, simplement à avoir un système de défense, le bloquer. Et en réalité, bien entendu, souvent, ces trois stratégies sont mélangées. Souvent, d'ailleurs, on préfère bloquer plutôt qu'anticiper, alors que dans termes de d'efficience, ce serait mieux de commencer par désarmer, et ça éviterait les deux autres. Hein. Le nucléaire a changé tout ça, dans la mesure où le nucléaire a montré que le désarmement d'un côté et la défense de l'autre est très compliqué. Donc, on a développé, si je puis dire, des stratégies de pure dissuasion, entre guillemets. Hein. Voilà. Peut-être qu'avec le cyberespace, On réintroduit une dernière dimension. On a entendu parler ce matin, vous avez parlé, mon général, de deception, hein, de tromperie. J'ai traduit comme ça, mais bon, je sais que c'est pas forcément. On utilise le terme anglais, anglo-saxon dans les armées. Jusqu'ici, la deception, vous l'avez montré, hein, à travers les opérations des Mongols, ce dont avait parlé aussi Geoffrey Steele, jusqu'ici, c'était en soutien d'une opération. Ça pouvait être essentiel, c'est-à-dire que si la deception échouait, il y avait de fortes chances que l'opération conventionnelle échoue aussi. La différence, c'est que dans le cyberespace, lorsque vous voulez attaquer, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de tromper votre adversaire. Vous êtes obligé d'exploiter une vulnérabilité qui existe. Et donc, vous n'avez pas les moyens, en quelque sorte, en cas d'échec de la deception, de contrebalancer par le hard power. À moins, bien sûr, que l'action dans le cyberespace soit incluse dans une opération, bien sûr, plus importante. Et donc, ça peut être un avantage pour le défenseur. Ce qu'ont fait donc certaines entreprises américaines considèrent que, et les Américains, le Cyber Command y réfléchit aussi, on peut, plutôt que de simplement prévenir ou anticiper l'attaque, la décourager, difficile, la bloquer, très difficile aussi, pourquoi ne pas profiter du fait que l'adversaire, elle est là, pour l'attirer. Donc il y a le système que les Américains appellent les honeypots, hein, donc les pots à miel, sont là pour attirer les attaquants, hein, comme les mouches, et puis on les piège. Hein. Ce qui pose un certain nombre ici de questions qui sont aussi politiques et éthiques, et c'est sur lequel je conclurai, c'est-à-dire que j'en ai pas tellement parlé ici, surtout des questions éthiques, mais il y a des grands problèmes dans la mesure où tout ça, ça peut marcher vis-à-vis des États. Quid des non-state actors, alors quand ils sont state sponsors ou pas? Quand ils sont state sponsors, on peut les mettre peut-être dans la catégorie des États, en imaginant qu'un gouvernement pourrait chercher à les dissuader si jamais, d'agir en leur nom si jamais c'était risqué pour l'État en question. Mais quid des autres, effectivement, qui eux sont pas forcément soumis aux mêmes contraintes normatives ou qui n'adhèrent pas, qui n'intériorisent pas forcément les mêmes types de normes. Deuxième difficulté, quid également des entreprises? Parce qu'effectivement, finalement, les systèmes d'armes sont vulnérables, certes, d'autant plus que ce sont généralement des capacités duales. On est vulnérable également sur les réseaux sociaux, c'est une autre question, mais les premières victimes quand même des cyberattaques, c'est davantage les entreprises. Or, aujourd'hui, on le voit aux États-Unis, les entreprises réclament le droit d'utiliser tout ce panel-là. Et dans le dernier, ils estiment que, rappelons-nous que pour Clausewitz, la défense, c'est pas un bouclier, hein. C'est une série de coups de poing qui vont parer les coups de l'adversaire. Ils réclament le droit à la contre-attaque. Ils réclament le droit, par exemple, quand on leur vole des données, à infiltrer le système qui les a volées et à détruire les données en question. Ce qui leur est interdit pour le moment. Alors, c'est une interdiction juridique, mais bien sûr, il y a des implications politiques et éthiques.